Suivez-moi dans une lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 20. C'est un texte d'introduction pour notre message d'aujourd'hui. Je lis à partir de 20, verset 3. Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là, pourtant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva. Il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec des bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi. Il vit et il crut, car il n'avait pas encore compris l'Écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Dans ce texte du matin de Pâques, nous voyons cette petite concurrence entre Pierre et l'autre disciple. Nous sommes dans l'évangile de Jean, et Jean ne se mentionne jamais lui-même. Il se dit le disciple que Jésus aimait ou l'autre disciple. Donc Pierre et Jean courent ensemble au tombeau. Et Pierre, qui aime être dans les premiers, cette fois-ci, il se fait dépasser par Jean qui court plus vite. Et puis Pierre, il va rentrer, mais Jean ne rentre pas. Pierre rentre, il voit, il est étonné, il se pose des questions, mille questions traversent son esprit. Mais ce qui me frappe, c'est le verset 8. Lorsque l'autre disciple, donc Jean, qui était arrivé le premier au tombeau, mais qui n'est pas rentré. Lorsqu'il entre, il est dit, il vit et il crut. C'est lorsque vous êtes au contact, lorsque vous entrez dans cette réalité de la tombe vide, c'est là que la foi apparaît. Et je voudrais que ce matin, nous puissions pas seulement avoir le contexte de la résurrection, mais que nous ayons la foi de la résurrection, que nous puissions saisir les bénéfices de la résurrection, que nous puissions prendre la puissance de la résurrection. La foi. Il vit et il crut. C'est quand l'apôtre Jean va dire, dans la première lettre, il va dire, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché, ce que nous avons contemplé, c'est ça que nous vous délivrons comme message, c'est ça que nous vous transmettons. Il faut avoir été touché de près pour pouvoir raconter quelque chose. C'est une fois qu'on est dans la tombe vide, qu'on est au milieu de la tombe vide, qu'on est dedans, qu'on est touché de près, c'est là que la foi vient parce qu'on fait une expérience. Avez-vous fait l'expérience? Ou êtes-vous en train de la faire? Ou désirez-vous la faire? Peut-être qu'il faut pour certains un renouveau d'expérience. Quelque chose qui doit renaître comme le printemps qui redonne les plantes, les fleurs, qui redonne la vie. Vous avez besoin que quelque chose s'enflamme de nouveau, quelque chose revienne à la vie, que vous puissiez non seulement voir et vous poser des questions et dire avec votre tête, oui, ça doit être vrai, mais vous puissiez avec votre cœur le croire et être posé dans votre certitude de la foi. 2 Timothée 2:8 nous dit ceci. 2 Timothée 2:8. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité des morts, issu de la descendance de David, selon mon évangile. Souviens-toi de Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul va écrire. Il va parler à son jeune Timothée pour lui rappeler quelque chose qu'on n'aurait pas besoin de nous rappeler quand même. Si nous célébrons le culte tous les dimanches et que nous sommes dans le témoignage et dans la vie courante, dans la vie chrétienne active, doit-on se rappeler que Jésus est ressuscité? Je pense que l'apôtre Paul n'exagère pas et qu'il n'écrit pas à un chrétien qui est entièrement dans le bleu, il est entièrement perdu dans sa foi. Non, c'est un serviteur de Dieu et l'apôtre Paul va lui dire, il faut que tu te souviennes de Jésus-Christ et surtout de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il faut s'en souvenir. Encore une fois, il ne faut pas seulement que nous voyons, qu'on nous raconte l'histoire de la résurrection. Parce que tant que les femmes avaient raconté l'histoire de la résurrection, personne n'y croyait. Et quand Pierre vit les bandelettes, ce n'est pas non plus là qu'il a cru. Il fallait qu'il rentre dans la tombe, qu'il vive quelque chose personnellement. Il soit touché. Parce que dans cette tombe vide, il devait y avoir quelque chose de spécial. Jésus était sorti, mais il y avait certainement encore des résidus de gloire, puissance et du Saint-Esprit qui étaient là, et les gens qui rentraient devaient certainement être touchés d'une manière spéciale. Et il faut que nous soyons touchés d'une manière personnelle par le message de la résurrection. Et Jésus va lui-même en parler souvent pour que la foi puisse grandir dans le cœur des disciples. Et pourtant, même tout à la fin, il ne comprenait pas. Il nous est dit dans Jean 20 qu'il ne comprenait pas encore, malgré tout ce qu'il avait dit. Rappelez-vous, Jésus a dit, par exemple, il disait, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Il parle de son propre corps. C'est l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 19, qui le dit. Marc, chapitre 9, verset 31, « Le Fils de l'homme sera livré et ils le feront mourir et 3 jours après, il ressuscitera. » C'est lui qui le dit aussi. Marc 14, 28, « Après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Il parle de sa résurrection. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Il en parle, mais personne ne comprend. Il l'a dit lui-même, il l'a dit à plusieurs reprises. Quel est le fondateur d'une religion qui peut prédire sa propre résurrection? Il n'y a que Jésus qui pouvait faire cela. Il n'y a que le Christ, le Fils de Dieu, qui pouvait le dire. Et parce que Jésus l'a dit, le Père va approuver tout ce que le Fils a dit et tout ce que le Fils a fait. Voyez-vous, Vendredi Saint, la croix, c'est le oui du Fils au Père, et le matin de Pâques, c'est le oui du Père au Fils. Le oui du Fils au Père, c'est « Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Père, me voici pour faire ta volonté. » Ça, c'est le oui du Fils au Père jusqu'à son dernier souffle. C'est le oui du Fils de Dieu à son Père. Jusqu'à ton dernier souffle, dis oui au Père et lui te dira « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Moi, je te dis aussi oui. » L'entre-oui doit rejoindre le oui du Père. Et regardez ce qu'il est écrit dans le message des apôtres, dans le livre des Actes. Nous lisons très souvent que le centre du message, c'est la résurrection. C'est le centre du message et c'est pour ça qu'il se passe des choses dans cette première église. C'est parce qu'il prêche la résurrection. Il prêche pas seulement pour répondre aux besoins des gens, mais il prêche la résurrection de Jésus, parce que la résurrection de Jésus, c'est la puissance de Dieu pour changer notre vie. Et ce matin, non seulement ce matin, nous voulons la prêcher, mais nous devons faire en sorte que ce message de la résurrection fasse partie de notre message chrétien tout au long de l'année. Regardez ce qui est dit, Actes 2, 24. C'est Pierre qui prêche le jour de Pentecôte. Il dit « Dieu l'a ressuscité ». En le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'elle fût retenue par elle, qu'il soit retenu par elle. Dieu l'a ressuscité. Ça, c'est le oui du Père. Dieu l'a ressuscité. On va plus loin, Actes 10, verset 40. Toujours Pierre qui parle à Corneille, un peu plus tard. Dieu l'a ressuscité le troisième jour, il a permis qu'il apparût, etc. Dieu l'a ressuscité. C'est le oui du Père à son Fils. Acte 13, 30, première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, où il dit « Mais Dieu l'a ressuscité des morts !» Et puis dans Romains, où l'apôtre Paul va étayer sa doctrine, chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, que Dieu l'a ressuscité. Donc, la résurrection, c'est vraiment cette approbation, c'est ce sceau de Dieu lui-même sur l'œuvre du Fils qui est parfaite. Et c'est Dieu qui ressuscite son Fils. Mais comme Jésus est Dieu, tout ça, ça va ensemble, parce que lui s'appelle la résurrection. Il n'est pas seulement quelqu'un qui ressuscite, mais il s'appelle « Je suis la résurrection et la vie ». C'est plus que quelqu'un qui est ressuscité. Le Père va confirmer le Fils à de nombreuses reprises dans son ministère, mais jamais le Fils n'a été confirmé comme le matin de Pâques. Jamais. C'est une confirmation de puissance face à l'œuvre de son Fils qui était parfaite et totale. Mon frère, ma sœur, si tu donnes ta vie pour Jésus, sois rassuré, Dieu va confirmer ça. Dieu va confirmer ça dans ton cœur que tu fais juste, que tu ne te trompes pas. Et lorsque toi, tu n'auras plus de force, lui te ressuscitera. Lui te confirmera. Ce oui, tu ne pourras même plus le dire parce que tu n'auras plus la force. Lorsque tu seras au seuil, dans l'ombre, de la vallée de l'ombre de la mort, le Père sera fidèle. Il ne permettra pas que son bien-aimé voie la corruption. C'est ce qui est dit aussi dans les textes prophétiques des psaumes. Que Jésus, à cause de cette assurance que son Père allait le ressusciter, il n'allait pas passer par la corruption. Et ton âme et ton esprit ne passeront pas par la corruption, ne seront pas perdus parce que le Père confirme toujours ceux qui ont dit oui au Fils. Si tu dis oui à Jésus aujourd'hui, le Père te dira aussi oui. C'est pourquoi ne sors pas de cette salle ce matin sans avoir dit oui Seigneur. Je te donne ma vie, je me donne à toi. Il faut que je... Ou vers qui est-ce que j'irai aujourd'hui? Je n'ai personne d'autre. Les disciples, face à un message difficile à entendre, voyaient des gens partir et Jésus se tourne vers les 12 qu'il avait appelés et dit, « Et vous, vous voulez aussi partir ?» Il dit, « Tu veux qu'on aille vers qui ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Si nous passons par des moments creux, vous savez, en lisant ce texte, ce qui m'a frappé, c'est que c'était bien les 12 qui avaient été appelés individuellement qui sont restés. Si tu as été appelé dans ton cœur, tu vas toujours rester avec Jésus, même quand c'est compliqué, même quand c'est difficile, et même quand tu n'en peux plus, que tu es au bout du rouleau, tu resteras toujours parce que tu sais que Jésus a les paroles de la vie éternelle. Romains chapitre 1, verset 4, il nous est dit que Jésus a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Il est déclaré fils de Dieu avec puissance. Donc c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Et pour aller un peu plus loin, nous voyons que ce message qui a été prêché par les apôtres dès la Pentecôte et les chapitres suivants, ça a été central dans leur prédication. L'apôtre Paul va rappeler dans 1 Corinthiens 15 quelque chose qui retient notre attention également aujourd'hui, où il va parler dans ce grand chapitre sur la résurrection des corps, parce que les gens ont plein de questions, ils disent « mais comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Que se passe-t-il avec ceux qui sont aujourd'hui dans la tombe, ceux qu'on porte au cimetière? Qu'est-ce qu'il y a après la mort ?» Donc il y a besoin d'avoir une réponse et Paul va prendre un chapitre avec 58 versets pour parler de cela. Mais au début, il est dit ceci. « Je vous rappelle, frère, encore une fois, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité. Je vous rappelle. » Donc Paul, de même que Pierre, il va dire la même chose aussi. Paul et Pierre vont rappeler le centre du message qui est la résurrection. Si tu oublies tout, mon frère, ce matin, souviens-toi toujours de Jésus ressuscité. Et parce qu'il vit, tu vivras aussi. Parce qu'il vit, tu vivras aussi. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé. Donc, ce n'est pas un évangile avec des variantes, avec des petites ajoutes qui m'arrangent ou qui sont à la mode. L'évangile tel qu'il a été annoncé, il doit être pur, il doit rester pur. Autrement, vous auriez cru en vain. Et maintenant, il commence à souligner ces mots les uns après les autres. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à plus de 500 frères à la fois, il est apparu à Céphas, puis aux 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts, ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. C'est comme Jean dans la tombe. Il fallait qu'il soit au contact d'une révélation personnelle pour qu'il voie et qu'il croie. L'apôtre Paul, c'est la même chose, il fallait qu'il ait sa révélation personnelle. Mon frère, ma sœur, il faut que tu arrives au moment où tu as ta révélation personnelle. Personnelle. Et c'est notre prière, c'est que le Saint-Esprit prenne le message et vienne l'inscrire dans ton cœur avec dans ta langue maternelle, dans ta langue maternelle, qu'il puisse comprendre ce qui se passe. Il va même dire au verset 17, 1 Corinthiens 15, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. » C'est pourquoi tout repose sur la résurrection. Et vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Donc Paul va dire, il va dire, d'abord il est apparu à Céphas, puis à Jacques, puis à 500 frères, puis aussi à moi pour finir. Donc il va dire, Jésus est ressuscité, c'est le même Jésus, ce n'est pas un autre Jésus. Ce n'est pas un Jésus virtuel ou un avatar, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Ce n'est pas un Jésus copié, ce n'est pas un Jésus de remplacement, c'est le même Jésus avec lequel vous avez mangé, que vous avez touché, qui a guéri les malades, qui a imposé les mains. C'est le même qui est ressuscité. C'est lui le même, le fils de l'homme, c'est le fils de Dieu. Le fils de Dieu, c'est le fils de l'homme. Il est parfaitement homme et parfaitement Dieu. Et c'est pourquoi ma foi doit se positionner, doit se fonder sur ça, sur la bonne et saine doctrine. Souviens-toi de Jésus, ressuscité pour toi. Il est mort pour nos péchés, il a été enseveli, c'est-à-dire la mort a été déclarée authentique. Il est ressuscité le troisième jour selon l'Écriture. Et ensuite, il s'est révélé. Et jusqu'à aujourd'hui, il se révèle à nous. Il se révèle à nous pour que nous ayons la foi, la confiance, la fidélité et que nous puissions l'aimer en retour. Donc la résurrection de Jésus, elle est corporelle. Là aussi, il faut le souligner, ça. Elle est corporelle. Ce n'est pas une hallucination, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un mythe, c'est une résurrection corporelle puisque les disciples ont pu le toucher. Il a mangé avec eux, etc. La résurrection de Jésus, c'est vraiment un événement historique. Alléluia. Il n'y a même pas besoin de foi, finalement, pour le déclarer. Il faut juste être honnête avec l'histoire et avec les récits des quatre évangiles qui sont complémentaires. Et les récits sont tels qu'on ne peut pas imaginer qu'ils ont copié les uns sur les autres. C'est quatre regards différents sur un événement qu'ils ont constaté, qu'ils ont accompagné, qu'ils ont décrit avec leurs mots, qui montrent que ce n'est pas quelque chose qui a été tronqué, ce n'est pas mensonger. C'est une réalité. Alors, la résurrection, comme dira l'apôtre Paul, « Souviens-toi de Jésus ressuscité d'entre les morts », cela doit être un souvenir régulier. Donc, on ne fête pas Pâques juste un jour par année. Il faut fêter Pâques tout le temps. Et spécialement, lorsque nous prenons la Sainte Cène, que nous prendrons tout à l'heure, eh bien, Jésus dit, « Chaque fois que vous prenez ce pain et ce vin, eh bien, vous annoncez la mort de Jésus. » Vous annoncez Pâques, sa mort et sa résurrection, bien sûr, ça va ensemble. Vous annoncez quelque chose. Dieu ne nous demande pas de nous souvenir de Noël, sa naissance. On peut fêter Noël, ça ne pose pas un problème. Mais il nous demande spécifiquement de nous rappeler avec force de sa mort et de sa résurrection pour que nous puissions avoir accès à sa puissance de vie. C'est justement ça, la différence. Souviens-toi de Jésus-Christ. issu de la postérité de David, ressuscité d'entre les morts. Parce que le salut et le prix du salut doivent être rappelés. Nous sommes oublieux. Nous sommes oublieux. Et nous avons besoin que la valeur de ce sacrifice, la valeur de ce sacrifice. Vendredi, j'ai parlé aux jeunes des sept paroles qui ont été données par Jésus à la croix. En méditant sur ces sept paroles, on voit la profondeur de l'amour de Dieu, on voit la puissance et l'amour, et on voit tellement de choses se réaliser dans ces sept dernières paroles. Nous devons nous rappeler, nous passons parfois rapidement sur les textes sans nous arrêter, et nous avons besoin d'être touchés en profondeur par la réalité, la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est pourquoi nous devons nous en rappeler régulièrement pour activer, pour réactiver le souvenir. Nous sommes oublieux. Nous sommes oublieux. L'apôtre Pierre et l'apôtre Paul vont dire « Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par ces choses que je rappelle. » Et il va dire au verset 15 de 2 Pierre 1, il va dire « J'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » On a besoin d'un rappel régulier pour que ces choses restent vivantes. Mais il y a le danger de tomber dans une routine et dans une tradition, dans un rite qui ne parle plus, qui devient mort. Soyons attentifs de ne pas tomber dans cette routine, dans ce rite qui ne signifie plus grand-chose, mais restons vivants par un souvenir qui nous touche à chaque fois. Tout à l'heure, je disais que Jésus est ressuscité corporellement et que c'est le même Jésus. Et en revenant dans 2 Timothée, justement, remarquez le détail intéressant. « Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David. » C'est ce Jésus-là, pas un autre. Il y avait déjà à l'époque des faux Jésus, des faux prophètes. Il y avait des faux messies. Et Paul va dire à Timothée, son fils spirituel, « Souviens-toi de Jésus, mais pas n'importe lequel. » Celui qui est prophétisé par les prophètes et qui est le descendant du David, qui est le fils de David. C'est celui-là qui est authentique. Celui-là qui est authentique, vrai homme, et avec pour preuve prophétique, il est de la descendance de David. Alors il y a un autre détail intéressant. Alors que les chrétiens sont oublieux et que les disciples ne parvenaient pas à croire à la résurrection. Regardez un détail intéressant dans Matthieu 27, 63. Matthieu 27, 63. C'est quand même intéressant. Matthieu 27, 63. Lorsque Jésus est dans la tombe, il y a du mouvement, il y a de l'agitation parmi ces sacrificateurs, ces pharisiens et les hommes religieux qui sont encore tout en émoi parce qu'ils sentent très bien qu'ils ont fait faux en livrant le Christ. Donc ils vont, dans leur panique, ils vont trouver Pilate. Ils vont carrément jusqu'au gouverneur romain, tellement qu'ils sont angoissés, tellement qu'ils sont mal dans leur peau, tellement qu'ils ont vu le soleil se cacher pendant 3 heures de temps, tellement qu'ils ont été témoins de ce tremblement de terre et qu'ils ont bien sûr aussi déjà appris que le voile avait été déchiré de haut en bas. Ils sont tellement mal qu'ils vont vers Pilate et disent, regardez, il dit, « Seigneur, nous nous souvenons, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, après 3 jours je ressusciterai. » Eux, ils croient à la résurrection. L'ennemi croit à la résurrection. Il a peur de la résurrection et de la puissance. Et les disciples, ils sont paniqués, ils ont tout oublié. Ils sont dans une amnésie générale et ils savent pas où ils en sont. Mais l'ennemi se souvient, ils vont trouver le gouverneur, ils vont dire, nous nous souvenons qu'il a dit, je ressusciterai. Alors il faut poser une garde devant la tombe. Parce que eux se souviennent à fond alors. Parce qu'ils ont tellement peur. Ils appréhendent, ils disent, même un Jésus mort, il est dangereux. Même un Jésus dans une tombe, il se passera toujours quelque chose. Ils se doutent que quelque chose va se passer. Il est dans la tombe, on va mettre une garde parce qu'un Jésus mort, on ne sait pas ce qui peut se passer, il est encore capable d'eux. Capable d'eux. Ils se doutent de sa puissance. il faut empêcher la résurrection. Mais on ne pouvait pas empêcher la résurrection. Et puis quand vous lisez les textes, dans les quatre évangiles, il n'est absolument pas question des gardes, sauf une fois où il est dit que les gardes ont tremblé de peur. Ils étaient comme morts, terrorisés par la puissance de résurrection. Tout le reste, les femmes arrivent, ils apportent leurs arômes, les disciples courent. Toute la description, il n'y a rien qui est mentionné sur les gardes. L'ennemi, on le met de côté, il n'a rien à voir là-dedans. C'est les disciples qui comptent. Même dans leur désarroi, les évangiles décrivent leur désarroi et leur recherche et leur questionnement, etc., leur chemin pour trouver la foi. Mais l'ennemi, pourtant, lui, se souvient. L'ennemi se souvient de la résurrection. Il sait que le jour viendra où il sera jugé. Il sait qu'il a peu de temps. Il sait que les prophéties vont s'accomplir. C'est pourquoi il est en furie dans le monde aujourd'hui. C'est pour ça que les choses sont en accélération et que des choses graves vont encore se passer. Des choses vont être surprenantes et des choses vont s'enchaîner les unes aux autres comme les douleurs de l'enfantement vont être des contractions en accélération. Et le monde entier soupire après la révélation des fils de Dieu. C'est l'heure des chrétiens de prêcher la résurrection avec foi, avec joie, avec détermination. Avec assurance, frères et sœurs. Et Dieu va confirmer sa puissance de résurrection comme il l'a fait pour les premiers disciples. Il va le faire aujourd'hui. Il va faire la même chose. Si tu prêches la résurrection, si tu vis, si tu rentres dans le tombeau et que tu es saisi pas par une ambiance, mais par la présence de Dieu et que tu laisses Jésus régner dans ta vie, tu verras la même chose et Dieu confirmera dans ta vie ce qui doit être confirmé. La résurrection, c'est vraiment la puissance de Dieu parce que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Et je reviens encore une fois dans 2 Timothée pour regarder un détail avec vous encore une fois. 2 Timothée, chapitre 2. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité entre les morts, issu de la descendance de David, nous l'avons déjà lu, selon mon évangile, verset 9. Pour lequel je souffre. Si Jésus a vaincu le plus grand ennemi qui est la mort, il peut vaincre les petits ennemis qui sont la souffrance. S'il a gardé Jésus au travers de la mort, il te gardera au travers de ta souffrance. Il te portera, il te soutiendra, il sera présent dans nos souffrances. L'apôtre Paul va ajouter que l'évangile de Jésus ressuscité, pour lequel je souffre, mais il va dire dans d'autres textes plus loin, Dieu a été avec moi dans toutes mes souffrances. S'il a vaincu le grand ennemi, il peut vivre les petits ennemis qui sont la souffrance, même si la souffrance parfois est terrible. Je sais que les souffrances présentes sont peu de choses comparées à la gloire à venir qui sera révélée. Regardez Job, l'homme qui souffre par excellence. Et Job qui n'a pas connu Jésus, qui est le plus ancien livre biblique, livre sur la souffrance. C'est un master en souffrance. Il a, on va dire, un doctorat en souffrance. Si ça pouvait exister, mais personne d'entre nous n'arrive à sa cheville au niveau de ce qu'il a passé, vécu. Et regardez ce qu'il va dire. Lorsque sa souffrance est tellement intense dans la solitude, dans tout ce qu'il ne peut pas expliquer, tout ce qui est inexplicable, tout ce qu'il ne comprend pas, alors qu'il ne connaît pas Jésus, il va dire au chapitre 19, verset 25, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, alléluia !» Mais on dirait qu'il a été dans la tombe, vide, qu'il est marqué par... La puissance de résurrection, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Ça, c'est Job. Il va dire, au milieu de la souffrance, c'est la résurrection et sa puissance qui me tient. Lui va prophétiser. Que son Rédempteur est vivant et qu'il va le soutenir dans cette épreuve horriblement difficile. Jésus a vaincu le dernier ennemi qui est la mort. Il va toujours te porter dans les souffrances du temps présent, qui ne sont rien en comparaison de la gloire à venir. Dieu te soutiendra dans l'épreuve et au travers de l'épreuve. Dis amen à ça. Alléluia. Oh, que c'est merveilleux. Que c'est merveilleux. Que c'est merveilleux. Et puis, bien sûr, il nous faut encore terminer en disant que la résurrection, c'est la puissance de Dieu, c'est l'assurance de mon salut. Puisqu'il est dit que, il est dit dans Romains, dans le chapitre doctrinal de la résurrection, enfin de la doctrine de base de Paul, il va dire « Nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. » Pour notre justification. Donc c'est l'assurance de mon salut qui est basée sur la résurrection. L'assurance de mon salut. As-tu l'assurance de ton salut, mon frère ? As-tu l'assurance de ton salut ? Il faut qu'elle soit basée non sur ce que tu ressens, mais sur ce qui est marqué dans la parole. Il faut la lire. Il faut t'en instruire. Il faut chercher, non pas juste prendre le psaume 23 et quelques textes clés que tu aimes bien. Il faut lire la parole pour avoir l'assurance du salut, car Jésus nous en parle au travers des textes sacrés dans de nombreux endroits. Donc je termine par la certitude de notre résurrection. Si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, notre foi est vaine. S'il n'y a pas de résurrection des morts, dira l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, Christ non plus n'est pas ressuscité. Je pense à un missionnaire que j'ai très bien connu qui travaillait en Indonésie parmi une tribu qui a été découverte dans les années 70. Et lorsque cette tribu a été découverte, c'est une longue histoire à raconter, mais c'est une histoire passionnante. Ce missionnaire a eu l'autorisation de vivre avec eux pendant un certain nombre d'années et de construire une maison près de leur village. Et il a remarqué une chose, c'est qu'ils n'avaient pas d'espérance pour la vie après la vie. Et il disait ceci, cette tribu disait, nous n'avons pas d'espérance, car nous ne verrons plus jamais nos bien-aimés. À cause de cela, il les gardait le plus longtemps, même morts, près de chez eux. C'était horrible. Et il y a un film qui a été fait là-dessus, et dans ce film, vous voyez que les gens donc, bâtissaient des espèces de petites plateformes entre les arbres, un petit peu à distance du village, et là, ils avaient embaumé leurs morts, ils les avaient laissés dans la nature, simplement sur une plateforme de branchage, etc., pour qu'ils ne soient pas trop loin du village, pour qu'ils soient encore avec eux, même morts, parce qu'il n'y avait pas d'espérance. Et ce missionnaire, conduit par l'Esprit de Dieu, va leur annoncer l'espérance de la résurrection en Jésus, et ils vont accepter à bras ouverts cette espérance. Aujourd'hui, plus de la moitié de ces tribus perdues, qui n'avaient même pas été enregistrées sur les cartes de l'Indonésie de l'époque, aujourd'hui, plus de la moitié sont des chrétiens. Ils évangélisent les autres villages qui sont aux alentours. Donc, la certitude de la résurrection, c'est aussi, bien sûr, notre certitude. C'est un gage. 1 Corinthiens 15, 17. Si dans cette vie seulement nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité, il est les prémices de ceux qui sont morts. Et Jésus va dire... Puisque je vis, vous vivrez aussi. Oh, que son nom soit béni. Nous avons une assurance extraordinaire pour vaincre toutes les craintes qui sont liées à la mort. Je termine mon message de ce matin en rappelant qu'il nous faut vivre l'expérience personnelle d'être touché et convaincu. Touché par la puissance de résurrection, par la réalité de la résurrection. Il faut réactualiser. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Lui qui est de la descendance de David, le vrai Jésus, pour lequel je souffre, va dire Paul. Et je suis soutenu par la puissance de sa résurrection dans ma souffrance. Et Jésus ressuscité ne peut pas mourir. Et il me donne ce oui de Dieu qui aujourd'hui va me donner de l'assurance pour aller au-devant de demain. Le mot de la fin, connecte ta foi à la puissance de résurrection. Connecte ta foi, ta faible foi, dans la grande puissance de la résurrection. Connecte ta petite foi à la grande puissance de résurrection. Et tu auras le bénéfice et le résultat de ce que Jésus a opéré pour toi à Golgotha et le matin de Pâques. Tout cet héritage, tout ce bénéfice est pour toi. Mais il faut que tu croies. Il vit et il crut. C'est parce que la foi devient efficace à ce moment-là. Amen, amen, amen.